Europe 1, il est 13h. L'information, c'est avec Fabienne Lemoyle.
Les injections avec le vaccin AstraZeneca continuent donc au compte-gouttes dans les hôpitaux pour les soignants de moins de 60 ans à Lyon hier après-midi, à Lille ce matin. Notez que le leader écologiste Yannick Jadot, député européen d'Europe Écologie Les Verts, a annoncé ce matin sur Europe 1 que son groupe va saisir la Cour européenne de justice pour que toute la transparence soit faite sur les contrats passés par les laboratoires avec la Commission européenne. Sur le front des inondations, si l'heure est à la décrue dans une partie du sud-ouest comme à Marmande, la Garonne où la Garonne a débordé à Saintes en Charente-Maritime, l'eau continue à monter, plus de 6 mètres déjà au niveau de la Charente et au moins 600 personnes qui ont dû être évacuées. De nouvelles manifestations à Rangoon en Birmanie, plus de 100 000 personnes dans les rues aujourd'hui et le pape qui a exprimé son soutien, sa solidarité ce matin avec le peuple birman. L'actualité sportive dominée par le 100e Classico OM-PSG ce soir au Vélodrome sur front de fronde des supporters marseillais. Coup d'envoi à 21h. 13h02, tout de suite les carnets du monde.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1. 13h, 14h. Les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une heure de vadrouille. On va écouter ensemble ce que vivent les gens ailleurs sur la planète. À commencer par les Birmans, qui depuis 5 ans pensaient avoir enfin tourné la page de la dictature après près de 50 ans de régime militaire. Mais les généraux ont trouvé que les dernières élections prenaient décidément un peu trop des allures de démocratie. Putsch, à suivre des témoignages de Birmans et un décryptage sur le poids incroyable de l'armée. On reviendra aussi sur une page sombre de l'histoire récente de l'Irlande. Pendant des décennies, des jeunes femmes enceintes hors mariage et leurs bébés ont été maltraités dans des institutions religieuses fermées. Des enfants ont disparu, des fosses communes ont été trouvées. Et le mois dernier, l'État présentait ses excuses à ceux que l'on appelle les survivants. Vous en entendrez quelques-uns. Sur le front du virus, nous serons en Afrique de l'Ouest, entre Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Les frontières terrestres, fermées depuis 10 mois, empêchent des familles de se retrouver. Alors beaucoup passent quand même par des circuits détournés. On ira aussi en Israël, champion de la vaccination. Apparemment efficace, même si on observe de nettes disparités entre communautés. Les carnets du monde sont ouverts. Et dans quelques petits instants, on aura mis le cap sur la Birmanie.
Europe 1, les carnets du monde. Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
La fragile transition démocratique s'est soudainement arrêtée lundi dernier en Birmanie. Les généraux n'ont pas supporté l'énorme succès du parti d'Aung San Suu Kyi aux élections de début novembre. La LND, Ligue nationale pour la démocratie, avait remporté 82% des sièges. Tout le monde connaît la dame de Rangoon, prix Nobel de la paix en 1991, alors qu'elle était assignée à résidence, enfermement qui aura duré 15 ans. Aung San Suu Kyi, donc, est aujourd'hui sous les verrous, inculpée officiellement pour avoir importé et utilisé illégalement des talkie-walkie. Les généraux n'ont pas trouvé mieux. Le président, qui était un de ses proches, est aussi emprisonné comme d'autres responsables de leur parti. Pourquoi ce brusque retour en arrière? Alors qu'Aung San Suu Kyi gouvernait avec les militaires depuis 5 ans, comme conseillère d'État, c'est-à-dire en gros l'équivalent de première ministre. C'est d'abord avec notre correspondante Carole Izou qu'on en parle depuis la Thaïlande voisine de la Birmanie. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Vous avez souvent été en reportage en Birmanie, vous y avez des contacts, vous avez pu parler à des habitants de Rangoon. Quel est leur sentiment aujourd'hui?
Alors ils sont en train de sortir, on pourrait dire, d'une première phase de stupeur, de stupéfaction. Surtout la jeunesse qui bien sûr entendait parler des histoires de la dictature, mais qui pensait vraiment que, même si le système n'était pas parfait, cette page était tournée, qu'on allait inéluctablement vers un système démocratique. J'ai pu parler par exemple à une jeune employée de banque, elle s'appelle Terry, elle m'a raconté comment, c'est en allumant sa télévision lundi, qu'elle s'est aperçue que toutes les antennes avaient été coupées, mis à part la télévision militaire, et qu'elle est tombée donc sur ce présentateur qui annonçait tranquillement que l'armée avait pris le pouvoir. Pour elle, c'est clair, les militaires, eux aussi, voyaient que la Birmanie se dirigeait lentement, certes, mais sûrement vers un système démocratique complet. Ils ont préféré invoquer une situation d'urgence montée de toutes pièces, à savoir cette fraude électorale de novembre dernier, afin d'avoir un prétexte pour s'accrocher au pouvoir.
Les généraux, c'était comme les rois de Birmanie depuis l'indépendance.
Dans les élections de 2020, nous avons remporté une victoire écrasante. Les perdants, eux, n'ont pas supporté la défaite. Ils n'ont pas arrêté de fomenter des coups, des ruses pour récupérer un peu de pouvoir. Les gens demandaient la démocratie et eux, ils ne voulaient pas lâcher leur siège. Ils ont volé notre représentation politique, notre honneur, notre gouvernement. Nous sommes à la merci du général. Ils ont osé, on est sous le choc, nous n'avons plus d'espoir.
Voilà, beaucoup de colère et d'amertume hein, chez cette jeune femme, on l'entend, mais pas de défaitisme pour autant, Carole. Depuis quelques jours, un mouvement s'organise qui s'est auto-baptisé « Mouvement de désobéissance civile ».
Alors, vous entendez ça derrière moi? Ce sont les habitants de Rangoon, tous les soirs à 20h, à leur balcon et devant leur maison, qui tapent de toute leur force sur des casseroles. Un rituel normalement destiné à chasser les mauvais esprits, aujourd'hui utilisé pour montrer bien sûr son opposition au régime militaire. Alors, outre ces actions symboliques, un appel à la grève générale a été lancé par les médecins et infirmières du secteur public, suivi par les étudiants, les professeurs d'université. Les plus courageux manifestent même dans les rues à Rangoon et à Mandalay, malgré les arrestations. À Bangkok aussi, on voit émerger une solidarité avec le mouvement pro-démocratie de Thaïlande et notamment, vous savez, l'usage de ce fameux salut, les trois doigts levés, ouais, symbole de lutte contre la dictature ici. À Bangkok, justement, j'ai rencontré Myotin, il est ouvrier sur l'un des plus gros chantiers du centre-ville. Il y a près de 3 millions de travailleurs birmans en Thaïlande. Myotin, eh bien, il en veut un peu à ceux qui, en Birmanie, dans la communauté internationale, auraient trop critiqué Aung San Suu Kyi sans voir qu'elle représentait la seule alternative possible pour les Birmans.
Il n'y a qu'elle, Aung San Suu Kyi, pour faire face à l'armée dans notre pays. Alors oui, c'est sûr, elle aurait pu faire plus pour développer le pays. Mais elle était dans une position très difficile, je pense, à toujours devoir faire des compromis avec les militaires. L'immense majorité des Birmans, on soutient la Ligue pour la démocratie et Aung San Suu Kyi. Il ne faut quand même pas oublier qu'elle nous a apporté la liberté. Beaucoup de gens ont oublié ce que c'était la vie sous la dictature. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein ? C'est terrible ce retour en arrière. Tout le gouvernement, toutes les institutions, tout le pays est sous le contrôle de l'armée.
Alors, petit rappel, hein, Aung San Suu Kyi a été critiquée par l'Occident pour n'avoir pas défendu les minorités en Birmanie, notamment la minorité musulmane des Rohingyas, qui a été persécutée. On parle de nettoyage ethnique, de quelques 10 000 morts, de centaines de milliers de survivants qui ont fui au Bangladesh voisin. Chez les Birmans, aujourd'hui, Carole, il y a un ressentiment envers la communauté internationale pour avoir lâché, en quelque sorte, Aung San Suu Kyi.
Oui, et tout particulièrement chez les Bamar, l'ethnie majoritaire, qui a toujours soutenu Aung San Suu Kyi envers et contre tout. Mais aujourd'hui, on peut dire en quelque sorte qu'elle est revenue dans le cœur de tous les Birmans, y compris les minorités ethniques. En tout cas, on peut dire qu'il y a une sorte d'alliance sacrée contre ce régime de la Tatmadaw ou l'armée birmane. Écoutez, Maung Soon, c'est un jeune réalisateur de films à Rangoon de la minorité Rakhine.
Quand l'armée commettait des crimes de guerre contre les minorités, Aung San Suu Kyi aurait dû défendre les faibles, mais elle ne l'a pas fait. En tant que membre d'une minorité ethnique moi-même, j'ai été très déçu par elle. Quand les étudiants ont été arrêtés, elle aurait dû s'opposer. Là non plus, elle n'a rien fait. Elle croyait à la possibilité d'une réconciliation nationale avec l'armée. Elle a essayé de faire des compromis avec eux, mais on ne peut pas la blâmer pour ça. Elle y croyait. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de réconciliation possible avec l'armée. C'est elle le vrai leader du peuple. Quoi qu'on en pense, elle vaut mille fois mieux qu'une dictature militaire.
Alors pour l'instant, le mouvement de résistance se cherche un peu. Certains réfléchissent à des façons d'agir sur les réseaux sociaux. Pas facile quand la junte coupe régulièrement l'accès à Facebook. D'autres promettent de ne plus acheter de produits qui viennent des entreprises appartenant à la junte. Les Birmans attendent en tout cas un soutien de la communauté internationale et notamment pour aider financièrement ceux qui vont faire la grève. La plupart se disent néanmoins opposés aux sanctions économiques.
Merci Carole pour toutes ces explications. Restez avec nous, on poursuit cette discussion avec Bruno Philippe qui est également en ligne depuis Bangkok. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant du journal Le Monde dans cette région d'Asie du Sud-Est et vous étiez déjà venu nous parler de Birmanie dans les carnets car vous êtes l'auteur d'un livre extrêmement documenté, Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée, publié par les éditions des Équateurs. Alors pour comprendre ce coup d'État, il faut rappeler que la position d'Aung San Suu Kyi était paradoxale ces dernières années, comme sur un fil, à la fois forte du soutien populaire, mais malgré tout fragile, car extrêmement dépendante de la junte militaire.
Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, elle a choisi de faire le pari de travailler, si je puis dire, ou même de collaborer avec l'armée. Alors, il faut reconnaître qu'elle n'avait pas le choix. L'armée birmane, une institution extrêmement puissante sans laquelle on ne peut rien faire, elle l'a fait au nom d'une idée qui était la suivante, c'est-à-dire je mets un petit peu sous le boisseau mes revendications démocratiques, mes velléités de changer une constitution qui était passée sous régime militaire, dans le but d'appliquer mes programmes de développement économique, mes programmes de développement sociaux, et aussi quand même de poursuivre sur la voie de la démocratie.
Il y a une dépendance politique parce que la constitution est très favorable aux militaires, leur fait la part belle, mais il y a aussi une énorme dépendance économique, un pouvoir économique énorme de l'armée, ça on ne le sait pas beaucoup. Au-delà même des 14% de budget de l'État confisqué pour la chose militaire, ils ont un pouvoir économique énorme, les généraux.
Ils ont un pouvoir économique énorme, ils ont deux conglomérats birmans qui leur appartiennent et grâce auxquels ils se font énormément d'argent, non seulement de manière licite à travers ces conglomérats, mais aussi de manière illicite, comme ça a été le cas depuis des années, le trafic de drogue, l'exploitation des mines de jade. Donc c'est une armée puissante, extrêmement corrompue et effectivement très riche.
C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans tous les secteurs de la vie quotidienne, dans tout le secteur économique de la Birmanie.
Tout à fait, ils sont dans la bière, ils sont dans les manufactures de textiles, ils sont dans les mines, je l'ai dit tout à l'heure, les mines de jade, mais aussi dans d'autres exploitations minières. Aujourd'hui, l'un de ces deux conglomérats a étendu son influence, ses tentacules, dans à peu près tous les secteurs économiques du pays.
Pari perdu et fin de l'expérience démocratique, ou alors selon vous, de toute façon, ça ne sera plus comme avant?
Ça, c'est... Vous savez, en Birmanie, comme me disait l'autre jour une amie à moi qui est une écrivain birmane, elle me disait, en Birmanie, il faut toujours essayer d'avoir des analyses rationnelles, mais il ne faut jamais oublier que la dimension irrationnelle est aussi importante que la dimension rationnelle.
Pour dîner avec les généraux, il fallait une longue cuillère, avez-vous écrit cette semaine dans Le Monde, et celle d'Aung San Suu Kyi était trop courte. Merci beaucoup Bruno, Philippe, de cet éclairage que vous apportez. Je rappelle le titre de votre livre que je conseille vraiment à tout le monde, publié par les éditions des Équateurs, Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée, publié par les éditions des Équateurs. Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Et merci à Carole Izou, notre correspondante. Vous étiez tous deux en ligne depuis Bangkok. À bientôt, Carole.
À bientôt, Sophie.
Prochaine destination, après une courte pause, l'Irlande, qui se replonge dans un passé douloureux fait de maltraitance à grande échelle dans des centres pour mères célibataires. Je vous annonce une enquête poignante.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il y a près d'un mois, le mercredi 13 janvier, le Premier ministre irlandais présentait les excuses de l'État aux survivants des maisons pour mères et enfants, des institutions religieuses qui ont accueilli des mères célibataires et leurs enfants nés hors mariage pendant des décennies dans des conditions souvent déplorables. En 2015, une enquête avait été commandée par le gouvernement et le 12 janvier dernier, 6 ans plus tard, le rapport établit qu'environ 9000 enfants sont morts dans ces foyers, soit environ 15% des enfants qui y étaient. C'est deux fois la moyenne nationale de l'époque. Bonjour Marion Gauthier.
Bonjour.
Depuis ces excuses, vous avez enquêté et vous avez joint des victimes de ces foyers, directs ou indirects. Alors il faut déjà dire peut-être que rien ne serait sorti sans la curiosité d'une historienne du comté de Galway.
Oui, Catherine Corless, historienne à ses heures perdues seulement, mère au foyer, restée marquée par ses années d'école dans la petite ville de Tuam. Elle y a côtoyé des enfants maigres, mal vêtus, certains se sont volatilisés du jour au lendemain. Des années plus tard, elle commence à enquêter et s'étonne que 800 noms aient disparu des registres d'inhumation, 800 enfants dont on sait qu'ils sont morts mais dont on n'a plus aucune trace. En 2014, grâce à ses recherches, une fosse commune est découverte sous le foyer des Sœurs du Bon Secours de Tuam.
Alors ces foyers étaient tous tenus par l'Église et subventionnés par l'État.
Oui, l'objectif c'était d'accueillir des femmes tombées enceintes hors mariage. Les jeunes mères, souvent pauvres, étaient ostracisées dans ces maisons jusqu'à la naissance de leur enfant. Un enfant illégitime dans l'Irlande catholique du XXe siècle, c'était une plaie à dissimuler, au point que ce n'étaient pas forcément les familles qui envoyaient leurs filles dans les foyers. Parfois, elles y allaient d'elles-mêmes, comme Sheila lorsqu'elle avait 19 ans.
Ma famille savait que j'étais enceinte, mais je ne pouvais pas rester à cause de la honte. L'Église nous répétait que commettre le péché originel était terrible, que ça déshonorait votre famille, la paroisse, les voisins. Alors j'ai toqué à la porte, j'ai inscrit mon nom dans le registre, Et quand vous faites ça, vous devenez la propriété de l'État.
Alors Sheila n'a passé qu'un an dans la maison Saint-Patrick à Dublin. Elle raconte le travail acharné à la garderie, au ménage, l'interdiction de parler avec les autres femmes et l'omniprésence des religieuses.
C'était un endroit très froid, horrible. Et la manière dont elle me traitait, elle savait que j'attendais un enfant, comme elle disait, de sang mêlé. Elle voulait des bébés blancs. Alors vous savez, un animal est mieux traité. L'accouchement était très difficile et les nonnes me criaient dessus. « Tu payes pour tes péchés maintenant !» Et quand mon fils est né, elles ont dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mon fils a été mis à la nurserie. J'avais dû garder les bébés là-bas, mais là, je n'avais pas le droit de regarder ou toucher ma chair et mon sang.
Un terrible témoignage de Sheila qui a été forcée d'abandonner son fils. On reviendra sur cette question de l'adoption tout à l'heure. Mais les mères, Marion, que devenaient-elles ?
Alors, elles ne pouvaient sortir de ces institutions qu'avec un homme, leur père ou un frère. Ouais. Leur vie reprenait alors, Sheila dit, comme si de rien n'était. Mais évidemment, le silence général ne fait pas taire la douleur. Ces foyers, ce sont aussi des vies entières à chercher son enfant, à se remettre des sévices subis. Il faut aussi préciser, Sophie, que le scandale actuel s'ajoute à celui des blanchisseries des sœurs de Madeleine. Peut-être que vous connaissez le célèbre film Magdalene Sisters, qui racontait l'histoire de ces milliers de jeunes Irlandaises qui étaient quasiment réduites à l'esclavage. Ces centres étaient d'abord destinés aux prostituées, puis la liste des pensionnaires s'est élargie aux malades psychiatriques, aux femmes dites de petite vertu ou aux mères célibataires qui avaient accouché.
Et elles pouvaient parfois passer leur vie en institution.
Les plus malchanceuses en tout cas, oui. J'ai pu joindre un homme de 72 ans aujourd'hui, John, né dans la maison de Tuam. Il m'a décrit sa mère, toute une jeunesse cloîtrée, de l'école industrielle où elle a été envoyée après avoir été abandonnée, à ses fameuses blanchisseries. Quand elle s'est échappée, elle ne savait pas allumer une télévision, n'avait même jamais vu de pièces de monnaie, dit son fils. Elle s'est mariée sans jamais avouer son passé.
Alors justement, la commission d'enquête a admis que les enfants nés dans les foyers religieux entre 1922 et 1998, c'était hier, voyaient leur perspective de survie significativement réduite. Les survivants, c'est comme ça qu'on les appelle. Qu'est-ce qu'on faisait d'eux ?
Même rapidement arrachés à leur mère, ils sont, comme elles, discriminés. Comme leur mère, ils sont marqués par le froid de ces grandes maisons. Et comme elles, ils sont tenus au silence. Écoutez, John.
Les conditions étaient très primitives. Les toilettes étaient dehors. Elles étaient tout le temps pleines, jamais réparées. Il y avait beaucoup d'enfants malades. On nous a envoyés à l'école du coin, mais on n'était pas autorisé à se mêler aux autres enfants. Un de mes copains m'a dit un jour « Tu sais ce que ça veut dire, illégal ?» Je lui ai répondu « Oui, c'est l'enfant d'une femme non mariée. » Et il m'a dit « Non, ça veut dire que tu ne devrais pas exister. »
Waouh ! Ces enfants étaient marqués comme au fer rouge, en fait.
Exactement. John se souvient aussi de sa famille d'accueil après Tuam, de la campagne profonde et de ses 5 vieux voisins. Il se souvient de ses nouveaux parents payés 3 pounds par mois par l'État pour s'occuper de lui, de son départ à 16 ans pour l'Angleterre et finalement de ses 10 ans d'errance.
Je me sentais toujours exclu. Je ne savais pas qui j'étais, ce que j'allais faire de ma vie. Et ce fantôme de ma mère qui me traquait, elle m'écrivait tout le temps, elle me suppliait d'aller vivre avec elle. Mais je n'aimais pas ma mère. Je la fuyais. Je ne voulais pas être associé à cette femme de mauvaise réputation. Je m'en tenais aux enseignements de l'Église. Mais des années plus tard, quand je me suis marié, quand j'ai eu des enfants, j'ai réalisé que c'était un mensonge. Un énorme mensonge. Alors je me suis mis à chercher ma mère. Ça m'a pris du temps, j'avais peut-être 40 ans. J'ai pleuré des larmes de joie, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai attendu si longtemps pour rencontrer ma vraie mère et... C'est avéré que c'était une femme d'une volonté exceptionnelle, une mère magnifique pour moi.
On entend son émotion quand il parle de ses retrouvailles. Il y a une autre blessure qui est ravivée par le rapport sur les maisons pour mères et enfants, c'est celle de l'adoption.
Oui, l'Église catholique est accusée d'avoir organisé un trafic. Les foyers pour mères célibataires prenaient parfois des airs de supermarché, m'a confié un survivant, qui voyait des adultes inconnus défiler, regarder les enfants, en choisir un du doigt. Et bien plus tard, à la mort de leurs parents, certains ont même retrouvé des reçus Le paiement de l'adoption avait été déguisé en donation. Il existe bien une loi de 1953 qui pose un cadre, instaure un contrôle et un suivi des enfants. Mais c'est très variable, à en croire Magella, 49 ans aujourd'hui, née dans la maison de Saint-Patrick à Dublin et rapidement adoptée.
Parfois, j'ai le sentiment d'avoir été punie. J'ai été séparée de ma mère et donnée à une famille maltraitante. Puis les autorités se sont intéressées à moi quand j'avais seulement 2 ans, parce que j'étais couverte de bleu à 2 ans. Mais l'État m'a rendue à mes parents adoptifs. Aux yeux de l'Église et de la loi, ça allait puisqu'ils étaient mariés. Je devais être reconnaissante d'avoir été donnée à une vraie famille. Mais je crois que je mérite des excuses. Aucune somme d'argent ne soignera mes blessures.
Magella évoque de l'argent. Est-ce qu'il est question de réparation, de compensation financière versée aux victimes ?
Alors pour l'instant, c'est pas très clair. Le gouvernement irlandais doit encore présenter un plan de réparation et parmi les propositions qui pourraient y figurer, effectivement une indemnisation, en tout cas d'après le journal The Irish Times.
En tout cas, beaucoup de survivants ne se satisfont pas du rapport de la commission ni des excuses qui ont suivi le mois dernier de la part du gouvernement et de certaines congrégations religieuses.
Non, ils dénoncent un travail très approximatif et une réticence suspecte à rendre public les 550 auditions effectuées. C'est le cas de Noël Brown. Elle est née dans la maison pour mère et enfant de Bessborough au sud de l'Irlande, puis adoptée. Elle a témoigné devant la commission et demandé le script de son entretien. Refus catégorique. Noël a fini par recevoir quelques pages de questions-réponses truffées d'erreurs. Le texte, par exemple, affirmait qu'elle avait été élevée par ses parents biologiques alors qu'elle ne les a jamais connus.
The report, despite all the hurt.
Le rapport méprise les blessures et ravive le traumatisme des survivants. Tout le pays est derrière nous et c'est la première fois qu'on a autant de soutien. En octobre dernier, quand le gouvernement a voulu mettre sous scellé pour 30 ans les enregistrements faits par la commission, ça a provoqué un tel tollé qu'ils ont dû reculer.
Alors, on comprend que le travail de la commission est imparfait. Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Alors, la principale demande des Irlandais aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. Tous les survivants que j'ai pu contacter souffrent d'une quête d'identité presque impossible. Les archives des maisons restent fermées. Certains registres ont été falsifiés. Noël a mis 17 ans à retrouver la trace de ses 2 parents biologiques. À force d'appels aux congrégations et aux travailleurs sociaux, il ne lui reste que la colère, car elle n'a trouvé leur nom et leur adresse qu'après leur mort.
Ce qu'on veut, c'est le droit de connaître notre identité en tant qu'enfant adopté. Voilà ce que je veux. Et je veux que la commission rende des comptes. On veut que le corps de ces bébés soit exhumé des fosses communes, qu'ils reçoivent un enterrement digne. On veut une enquête criminelle pour ces 9000 enfants morts. Et sortez l'Église catholique du jeu. Faites-la payer. Elle s'est fait beaucoup d'argent sur le dos de ces femmes. En vendant des enfants en Amérique, en prenant des bébés pour les vendre en Irlande, c'était un business monté par l'État et l'Église. Et ils se sont fait beaucoup d'argent comme ça.
Alors, le clergé a effectivement été particulièrement puissant en Irlande et ça explique l'ampleur du problème qui se pose au gouvernement. L'Église a eu la main sur les écoles, les hôpitaux. En 1937, elle s'est vue conférer une position spéciale dans la Constitution, autrement dit un droit de regard sur les lois, une vraie mainmise politique. Donc aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'Irlandais se sentent concernés. Pour vous donner une idée, Sophie, la commission d'enquête s'est penchée sur le cas de 56 000 femmes et 57 000 enfants passés par 18 de ces maisons. Or, en tout, il y en aurait eu plus de 180 en Irlande.
10 fois plus que le nombre de centres qui a été étudié. On comprend l'ampleur de ces zones d'ombre qui subsistent et potentiellement des centaines de milliers de personnes concernées. Merci beaucoup Marion de nous avoir permis d'entendre ces survivants de cette sombre page de l'histoire récente de l'Irlande. À très vite.
À bientôt.
Et une petite pause pour se remettre. Et puis on parle littérature avec Nicolas Carreau qui nous rejoint.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Place à la culture dans les carnets du monde et c'est au tour de la littérature étrangère de prendre place cette semaine parmi nous et son représentant éminent, Nicolas Carreau. Bien sûr, bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Allez-vous nous permettre de souffler un peu, de respirer un grand coup ? Pas sûr. Avec vous, on fait escale en Italie aujourd'hui avec un livre poético-politique, m'avez-vous dit ?
De Giulio Cavalli, aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelle « À l'autre bout de la mer », le titre italien c'était « Carnage ». Et les deux conviennent, c'est à la fois poétique comme le titre français et en même temps punchy et direct comme le titre italien parce qu'il s'agit bien d'un carnage, mais qui commence doucement. Nous sommes à DF, C'est un port fictif en Italie. Il y a là Giovanni Ventimiglia, un pêcheur. Il pêche et il vend ensuite directement le poisson au petit marché avec sa femme Maria Antonia. Il s'en sort tout juste. Bon, et ce matin-là, en revenant à DF après sa pêche, Giovanni tombe sur un cadavre. Un homme abîmé par la mer d'ailleurs, peau mate, sans qu'on puisse dire d'où il pourrait provenir. Aucun naufrage n'a été signalé à proximité. Le commissaire arrive. C'est pas souvent un cadavre à DF, c'est plutôt ennuyeux cette histoire. C'est un petit village. Le policier sait bien que tout le monde va commencer à paniquer. Il faut avant tout rassurer. Bon, enfin, l'enquête commence.
C'est un polar donc.
Au début, ça y ressemble. Mais trois jours plus tard, deuxième cadavre découvert par Lily, une grande bourgeoise de DF pendant son jogging. Elle est choquée. Et pareil, le commissaire arrive.
Et est-ce que les morts sont liés ?
On ne sait pas, mais c'est une sacrée coïncidence quand même, s'ils n'ont rien à voir. Surtout, ils se ressemblent étrangement. Exactement la même corpulence, même taille, tout. Mais ça ne s'arrête pas là. D'autres cadavres s'échouent à DF, mais quand je dis d'autres, bientôt, ils sont des centaines.
Waouh ! On pense à des migrants peut-être dont le bateau a coulé, non ?
On y pense, mais on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'une vague au sens littéral de mort déferle sur DF. Évidemment, tout ça prend une ampleur nationale. Et en fait, DF va devoir se débrouiller tout seul. C'est bien trop compliqué comme affaire. Et alors là, je ne vous en dis pas trop, mais il y a des résonances complètement dingues avec les confinements que l'on vit. Pourtant, le livre a été écrit en 2014.
Et alors Nicolas, elle est où la poésie du roman dans tout ça ?
Oui, parce qu'en fait, j'ai l'air de vous parler d'un roman très sombre, sorte de roman catastrophe, mais c'est autre chose. Ce sont des pas de côté permanents, des décalages. Il y a comme une sorte de surréalisme dedans. Pour Liskaya, la traductrice, c'est justement cette manière de décrire qui est au cœur du roman.
On peut parler presque de surréalisme, effectivement, de réalisme magique. Le terme exact, ce serait peut-être, si on pense au genre littéraire, à la dystopie, qui est une fiction qui décrit un monde utopique sombre, qui met en scène une société imaginaire, un bonheur impossible et une société sous contrainte, en général, un peu tyrannisée, voilà, soumise à l'oppression. Et ça, ça permet, je pense ici à Giulio Cavalli, de donner à voir, de nous tendre une sorte de miroir, à la fois artificiel, mais en même temps très, très évocateur, très, très juste, de notre monde, pour pouvoir dénoncer certains traits très dérangeants et en même temps nous faire réfléchir à nous.
Alors l'auteur justement, Giulio Cavalli, qui est-il ?
Alors il est assez connu en Italie et il a plusieurs facettes, Liskaya.
Alors Giulio Cavalli, il est né à Milan en 1977. C'est un écrivain, un homme de théâtre, un journaliste engagé dans la vie politique de son pays et la lutte anti-mafia. Il a écrit cinq romans. Carnaio, c'est le cinquième. C'est aussi quelqu'un qui lutte contre l'indifférence et les indifférents. C'est vraiment le combat et le thème central de son œuvre. Il est très engagé politiquement et en particulier dans la lutte anti-mafia qui lui vaut d'ailleurs de vivre sous protection judiciaire depuis 2007.
Oui, ça rigole pas. Par ailleurs, vous m'avez prêté le livre, la couverture est très belle.
Ah oui, avec cette vague un peu à la Hokusai, avec ses couleurs mates comme ça. Les éditions de l'Observatoire font partie de ces éditeurs qui renouvellent un peu l'art de la couverture, alors qu'en France, on a une tradition de sobriété plutôt. Là, ça claque.
Ouais, c'est très joli. À l'autre bout de la mer, donc, de Giulio Cavalli à l'Observatoire. Merci Nicolas et on vous retrouve à 14h pour La Voix et Livre. Quant à nous, on prend la direction de l'Afrique de l'Ouest, dont la majeure partie des frontières terrestres n'ont pas rouvert depuis mars dernier. Et pour des millions de gens qui vivent entre deux pays, c'est très compliqué. Des passeurs à moto ont fait leur apparition.
Europe 1, les carnets du monde. Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Frontières terrestres et maritimes fermées, c'est le cas sans discontinué depuis le 18 mars 2020 entre la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Seuls les avions ont pu reprendre les rotations, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion, ces restrictions sanitaires sont synonymes de douleur, car des couples, des familles sont de fait séparés depuis près d'un an. Et face à cette situation provisoire qui s'éternise, tout un écosystème s'est développé pour passer les frontières illégalement, entre le Togo et le Ghana par exemple, mais surtout entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Plus de 5 millions de Burkinabés vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Les liens entre les deux pays sont très importants. Notre correspondant François Hume a interrogé des Burkinabés des deux côtés de la frontière. À Ouagadougou, la capitale du Burkina, il s'est rendu à la gare routière de Gonguin, où il a rencontré des voyageurs bien décidés à braver les interdictions. Voici son reportage.
Une feuille A4 a été scotchée sur le mur, à côté du guichet de vente de la gare routière. On peut y lire qu'à partir du 8 janvier, le service reprend sur la ligne Ouagadougou-Abidjan, départ tous les lundis et jeudis à 18h. Coût 60 000 francs. C'est l'équivalent de 90 euros, trois fois plus que le prix habituel. L'écriteau ne donne pas plus d'informations. Pourtant, officiellement, les frontières sont toujours fermées entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce n'est que par le bouche à oreille que les usagers prendront connaissance du périple qui les attend. Dès 16h, les premiers voyageurs forment une file devant l'autocar à l'arrêt, certains avec de gros sacs en toile, emplis de vivres ou d'habits neufs. Un voyageur vient de s'asseoir à l'arrière, il refuse de donner son nom et hésite longuement avant de répondre. Il sait que le trajet est défendu, mais il n'a plus revu ses deux fils résidant à Abidjan en Côte d'Ivoire depuis près de 2 ans. Cette fois, il s'est décidé à partir malgré l'interdiction.
Oui, pour traverser la frontière, c'est vraiment très difficile.
Et là, malgré tout, ce bus va partir. Alors du coup, comment ça se passe en fait?
C'est pas tellement bon. C'est sur la route qu'on va voir.
Est-ce que vous avez une petite appréhension ou pas?
Ben oui, puisque les frontières sont fermées. Mais quelles que soient les conditions, nous sommes obligés d'affronter. Parce qu'on doit forcément s'y rendre. Certains amis ont raconté, bon, arriver à la frontière, il faut prendre des tricycles pour essayer de traverser, puisque le car ne peut pas traverser. Bon, tout ça sont des choses qu'on nous a racontées. Bon, arriver sur le terrain, on fera avec.
Descendre du bus à la frontière, payer des passeurs et emprunter des motos ou des tricycles à moteur afin de passer illégalement vers la Côte d'Ivoire. À côté de lui, un homme de 29 ans qui travaille dans les champs de cacaoyers en Côte d'Ivoire a déjà fait ce trajet dans le sens inverse et il raconte la même histoire. Après avoir touché son salaire annuel, 350 000 francs, soit 47 euros par mois, il a rejoint sa famille au Burkina pendant les fêtes.
Chaque fois que Dieu fait, chaque fin d'année, on vient visiter nos parents, puis on se retourne.
En raison de l'explosion des tarifs, cet aller-retour lui coûte un tiers de son salaire de l'année. Aujourd'hui, il sait à quoi s'attendre. Au poste frontière, il faudra prévoir un billet pour les policiers afin qu'ils ferment les yeux sur ces passages illégaux.
C'est compliqué, mais on n'a pas de quoi faire. Ça va être plus long. Parce que ils vont nous gêner sur la route là beaucoup, quoi.
Il y en a qui vous demandent de l'argent en plus sur la route?
On va payer le corridor, tout ça là. Au corridor là avant, on payait 1 000 francs. Mais maintenant, il y a des corridors même, et peut-être dit d'envoyer au moins 10 000 francs comme ça.
Les conducteurs de bus aussi font grise mine. Pour eux, les temps de trajet ont été réduits de plus de moitié. Autant d'heures de travail qui ne leur sont plus payées. Déjà mis en danger par le risque d'attaque terroriste sur la route, la crise du Covid est une nouvelle difficulté. Juste avant de prendre le volant, ce chauffeur m'explique.
On ne peut plus travailler comme avant. Puis il y a les barrières qui sont là. On ne peut plus travailler comme avant.
Et ça veut dire que vous gagnez moins de sous ou...
Bien sûr, on gagne moins.
Donc
ça ne peut pas être comme avant, c'est très très difficile. Merci.
Bon, vous partez où là?
On part à Waïga.
Combien d'heures de route?
Bon, à peu près 3h30, comme
bon
ça.
Courage.
Merci.
Kokombo Saïba, 31 ans, patiente avant de pouvoir charger ses sacs à l'arrière du bus. Et il s'interroge. Pourquoi les riches peuvent traverser la frontière en avion, tandis que c'est interdit pour les pauvres? Pour la première fois depuis un an, il prend la route. Ses activités professionnelles sont à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire.
Bon, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a presque tous nos biens là-bas. Donc nous sommes obligés de partir. Nous sommes ici, bon, on ne travaille pas. Je suis ici pendant un an. Donc ici là, rien ne vient à cause de la maladie. Bon, on est là, ça ne va pas. Donc on est obligé de forcer pour partir. Mais si par exemple, ils pouvaient ouvrir les frontières, parce que les avions volent, mais pourquoi les voitures ne pouvaient pas rouler? Ça, bon, c'est vraiment un souci pour nous, quoi.
Juste après cet échange, le chef de gare, alerté, a appelé la sécurité pour nous faire quitter le terminal routier. Les gouvernements n'ont à ce jour pas prévu de mettre fin à la fermeture des frontières terrestres et maritimes. À Ouagadougou, François Hume, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec François Hume qui est de retour à sa base à Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour François.
Bonjour.
On vient de vous suivre à la gare routière de Ouagadougou, donc au Burkina, auprès de voyageurs bien décidés à braver l'interdiction. Mais beaucoup d'autres, sans doute des dizaines de milliers de personnes, ne tentent pas l'aventure et sont donc bloqués depuis presque un an.
Exactement, soit faute de moyens, soit pour s'éviter des problèmes. Ce sont sans doute même des centaines de milliers de personnes qui sont bloquées. Il y a environ 5 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, et qui ont bien souvent des attaches familiales dans leur pays d'origine. Donc c'est quasiment autant de personnes qui souffrent de la situation. Avant de partir pour Ouagadougou, j'en avais parlé avec des Burkinabés qui vivent à Abidjan. Le premier que vous allez entendre, Samedi Doumaké, est agent de sécurité. Son épouse et ses enfants vivent au Burkina. Et le second, c'est Maïga Ousmane, un petit commerçant.
Bon,
a difficulté pour rentrer chez nous. Pour aller au Burkina, il faut payer 70 000 à peu près. Or, avant, à peu près 25 000 francs, 30 000 francs, tu partais au Burkina, sans problème.
Et est-ce que la famille vous manque, du coup, ça fait longtemps que...
Oui, oui, la famille nous manque, la famille nous manque. J'ai besoin de voir ma famille, mes enfants.
Si j'ai trop fait en Côte d'Ivoire sans rentrer au Burkina, c'est 3 mois. Mais là, ça me fait bientôt un an que je n'ai pas pu rentrer. Donc vraiment, ça me fatigue très, 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 très fort.
François, on ne comprend pas trop la logique entre les frontières aériennes qui sont ouvertes tandis que les frontières terrestres sont fermées.
Alors les autorités répondent qu'il est plus facile de contrôler les voyageurs du transport aérien que les usagers du bus, mais l'avion est hors de prix, inaccessible pour la majorité des voyageurs, d'autant que les gouvernements ont ajouté une taxe Covid de 80 euros pour financer les tests PCR obligatoires. Du coup, le billet plus la taxe, il faut débourser 600 euros pour un aller-retour. Officiellement, le salaire minimum en Côte d'Ivoire est de 85 euros par mois, 48 euros au Burkina. Il est donc quasiment impossible pour la plupart des Ivoiriens ou des Burkinabés de prendre l'avion.
On imagine que c'est la pandémie qui justifie ces fermetures de frontières. Quelle est la situation sanitaire, l'ampleur des contaminations ?
Elle est plutôt maîtrisée jusqu'ici, ce qui renforce l'incompréhension. Officiellement, la Côte d'Ivoire compte 158 décès depuis le début de la crise et le Burkina Faso enregistre 120 décès. Globalement, c'est toute la sous-région qui semble relativement épargnée par la pandémie, notamment en raison de la jeunesse de sa population. Les patients à risque, les plus de 65 ans, ne constituent que 3 à 4% de la population ouest-africaine. Donc là encore, certains se demandent si des mesures aussi drastiques que la fermeture des frontières se justifient encore aujourd'hui.
D'autant que ces circuits parallèles, si on vous écoute bien, ne semblent pas vraiment cachés.
Absolument, Sophie, il y a beaucoup d'hypocrisie, je l'ai bien vu. Entre les compagnies de bus et la police aux frontières, le processus est parfaitement huilé pour contourner une mesure qui suscite pourtant beaucoup d'anxiété chez les voyageurs. Le système est d'autant plus bancal qu'aucun test Covid n'est demandé pour ces usagers des autocars, contrairement à ceux du transport aérien.
Ouais, et puis il y a toujours des petits malins pour profiter de la détresse de certains, en l'occurrence ces passeurs ou policiers corrompus. Merci François de nous avoir permis de comprendre ce que vivent ces citoyens africains dans des pays dont les frontières restent donc bouclées, officiellement en tout cas. Merci, à bientôt.
Merci.
Et on file dans un pays qui vaccine, qui vaccine. Ils ont une longueur d'avance, mais ne sont pas sortis d'affaires pour autant. Direction Israël dans quelques instants.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est le pays pionnier pour la vaccination. En Israël, plus de 3 millions d'habitants sur les 9 millions que compte le pays ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Le pays compte bien avoir vacciné plus de 60% de sa population d'ici le mois prochain. Bonjour Gwendoline de Bono.
Bonjour.
Vous êtes à Jérusalem. Jetons d'abord un œil avec vous à la situation sanitaire globale. Assez paradoxale puisqu'à la fois la campagne de vaccination a débuté il y a presque 2 mois et commence à montrer des résultats, une sortie progressive de confinement est programmée et en même temps la situation est assez terrible dans les hôpitaux.
Oui, pour comprendre ce paradoxe, il faut s'imaginer qu'un confinement strict est appliqué en Israël depuis 1 mois et il y a plus de nouveaux cas de Covid-19 par jour qu'au début du confinement. Ouais. Il y a toujours plus de 1000 personnes hospitalisées dans un état grave. Résultat, vous avez des unités Covid de certains hôpitaux qui ne peuvent plus accueillir de nouveaux malades et effectivement, le personnel médical est débordé. Alors, ce qui explique cette courbe qui baisse beaucoup plus lentement que prévu, malgré le confinement, malgré la campagne de vaccination, eh bien, c'est les variants du Covid-19, dont le variant britannique. Les autorités estiment qu'il représente à peu près la moitié des nouveaux cas de Covid-19 quotidiens. Il y a en Israël, si vous voulez, une sorte de course entre le variant et le vaccin. Un point positif toutefois, ici plus de 84% des plus de 60 ans ont été vaccinés. Et après la seconde dose de vaccin, eh bien, les hospitalisations s'effondrent pour cette tranche d'âge.
Oui, bonne nouvelle pour tout le monde, puisque vous êtes assez pionnier en la matière. Pour revenir à la vaccination, il existe notamment de fortes disparités au sein des différentes communautés. Chez les Arabes israéliens, par exemple, le taux de vaccination reste faible. Pour comprendre, on écoute votre reportage, Gwendoline de Bono, entre Tel Aviv et Nazareth.
Une seringue en forme de fusée, un compteur sur grand écran où le nombre de personnes vaccinées défile en temps réel. L'ambition politique s'affiche partout, dans le hall du grand hôpital de Tel Aviv. Le procédé est simple, il suffit de passer sa carte d'assurance maladie dans une machine et 10 minutes plus tard, les infirmiers injectent le vaccin.
Une fois qu'ils sont vaccinés une première fois, ils doivent attendre 3 semaines. Puis ils reçoivent la deuxième dose de vaccination. C'est très facile.
Une efficacité que Valérie Alouche, adjointe au chef du service Covid-19 de l'hôpital, attribue à l'architecture du système de santé israélien.
Tout est informatisé, tout le monde a pu fixer son rendez-vous à sa caisse de santé, les vaccins sont prêts et donc il y a une structure qui était déjà prête. Je pense aussi qu'il y a aussi un effet boule de neige. Plus les gens se font vacciner, plus les gens voient qu'en fait le vaccin n'a pas d'effet secondaire dramatique.
Cet effet d'entraînement n'a pas pris partout au même rythme. Dans la communauté arabe israélienne, l'adhésion au vaccin est moins forte. Dans l'hôpital français de Nazareth, plus grande ville arabe d'Israël, un médecin nous montre fièrement les frigos remplis des flacons de vaccins Pfizer qui viennent d'être acheminés.
On a reçu 10 flacons de 6 doses, ça fait 60 au total.
Dans une salle adjacente, une infirmière de l'hôpital s'apprête à recevoir la première dose de vaccin. Elle a beau s'occuper de malades du Covid-19, elle a beaucoup douté avant de se faire vacciner.
Je pensais que peut-être, si je contractais le virus, ce ne serait pas aussi dur que pour beaucoup de gens que j'ai vus. Mais ensuite, j'ai été convaincue que c'était mieux de me faire vacciner. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre à 100%, mais on verra. C'est quelque chose de nouveau.
Wissam Ali, infirmier lui aussi, appose un tampon qui certifie qu'elle est désormais vaccinée. Il se désole de cette méfiance à l'égard du vaccin qui reste forte au sein de sa communauté.
Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent ici. Résultat, les gens ont peur de se faire vacciner. Il y a des gens qui en effraient d'autres. Ils répandent des rumeurs sur le vaccin à propos des effets secondaires à long terme, des conséquences néfastes sur la santé qui seraient cachées. Tout ça fait peur aux gens.
Résultat, la communauté juive afflue dans les centres de vaccination arabes quasi vides. Dans la salle d'attente d'un dispensaire de Nazareth, peu d'habitants de la ville, mais les membres d'un kibboutz situé à 30 km de là. Elisabeth est venue en famille avec ses parents et son frère.
Les gens d'ici n'étaient pas convaincus par le fait de se faire vacciner. Nous, on l'était. On le voulait. Donc ici, on n'a pas eu à attendre.
La venue de la communauté juive dans ces dispensaires arabes nous aide à vaincre la méfiance des habitants, constate un responsable du centre de vaccination. Pourtant, le chemin reste long. En Israël, plus de 70% des plus de 60 ans ont été vaccinés. Dans la communauté arabe, le chiffre tombe à 45%. Jérusalem, Gwendoline Debono, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est toujours en ligne avec vous, Gwendoline. Il y a une autre communauté qui se distingue face à la pandémie, ce sont les juifs ultra-orthodoxes.
Oui, je vous le disais tout à l'heure, près de 84% des plus de 60 ans ont été vaccinés en Israël. Eh bien, si l'on regarde ce chiffre au sein des ultra-orthodoxes de plus de 60 ans, eh bien, seul un peu plus de la moitié d'entre eux ont été vaccinés. La communauté haredim est assez divisée sur le sujet. Vous avez des rabbins qui encouragent leurs ouailles à aller se faire vacciner, mais l'on voit aussi que dans les villes ultra-orthodoxes, les écoles restent ouvertes, les restrictions n'ont presque pas été appliquées. À Jérusalem, dimanche dernier, on a vu des milliers d'ultra-orthodoxes se rassembler dans la rue pour les funérailles d'un rabbin, alors qu'ici, seule la famille proche est autorisée à assister à un enterrement. Résultat, un quart des nouvelles contaminations aujourd'hui en Israël se passent au sein de cette communauté ultra-orthodoxe.
Par ailleurs, on sait bien que le virus ne s'arrête pas aux frontières. Pourtant, il n'y a pas de vaccination à ce stade dans les territoires palestiniens, ni en Cisjordanie, ni dans la bande de Gaza.
Oui, le vaccin est un révélateur des inégalités. Alors, les territoires palestiniens ont commencé à vacciner mardi dernier, mais c'est sans comparaison possible avec Israël, puisque l'État hébreu n'a envoyé que 2000 doses de vaccin. Les territoires palestiniens, on le rappelle, comptent 5 millions d'habitants. Alors, résultat, l'autorité palestinienne s'est tournée vers le programme COVAX de l'OMS, mais les doses n'arriveront pas avant un mois ou deux. 4 millions de doses du vaccin russe Sputnik V ont donc été commandées par l'autorité palestinienne, mais pour l'instant, seules 5 000 sont arrivées. Le gouvernement israélien estime que, selon les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne est en charge de la santé des Palestiniens. Pour plusieurs ONG, l'argument ne tient pas. Israël est une puissance occupante, c'est ce qu'elles estiment en tout cas en Cisjordanie. Et à ce titre, elle a l'obligation morale et juridique de fournir des vaccins aux Palestiniens.
Voilà, en attendant Sputnik 5 donc. Et c'est 4 millions de doses pour 5 millions d'habitants. Ça risque de ne pas suffire. En attendant COVAX également. Merci beaucoup Gwendoline pour ce décryptage et à très bientôt.
À bientôt.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Il est philosophe, autiste Asperger et peut-être d'abord voyageur dans l'âme. Et pour toutes ces bonnes raisons, Joseph Chovanec porte un regard singulier sur le monde. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors c'est toujours depuis la Belgique que vous nous proposez cette petite virée en autistan, avec le regard braqué cette semaine sur des lieux stratégiques.
Oui, lieu stratégique ou alors lieu essentiel du point de vue de la sûreté de l'État. Quand on entend ça, on pense par exemple au quartier central d'une capitale, au ministère de la Défense. Je me souviens de la première fois que j'avais mis les pieds à Pékin, je ressentais cette espèce de frémissement à l'idée d'être à l'endroit le plus stratégique de l'Empire du Midi, la fameuse place Tiananmen, entourée de bâtiments au nom évocateur, cité interdite, palais de l'Assemblée du Peuple, etc. Mais j'ai été déçu de ce point de vue. La cité interdite, eh bien, c'est un musée. Le bâtiment de l'Assemblée du Peuple était vide, fermé. J'ai compris alors que le secret de la Chine profonde était ailleurs qu'à la place centrale de Pékin.
Je le prononce beaucoup moins bien que vous, mais j'ai eu le même sentiment de vide sur la place Tiananmen.
Et vous me rassurez, Sophie, parce que je crois que c'est souvent le cas dans les très grandes villes. J'ai fait le même constat, par exemple, à Téhéran. Il n'y a pas vraiment de centre névralgique qui vous ferait frémir, voire même pas de centre tout court. Dans sa succession infinie de petits immeubles, la ville de Téhéran est même étonnamment humaine par rapport à l'image que l'on pourrait s'en faire de l'extérieur.
Alors il faut chercher ailleurs ces fameux lieux stratégiques ?
Oui, aux alentours de la capitale. Par exemple, toujours en Iran, il y a une ville qui s'appelle Qom, qui est en quelque sorte la capitale spirituelle du pays, une ville très religieuse, là où vous avez tous les grands érudits de l'islam chiite. Eh bien, à chaque fois ou presque j'ai pris le bus de Téhéran à Qom, à un moment donné, les gens semblaient surexcités. Ils regardaient du côté est de la route. C'était quand on passait près de Fordow, le fameux site nucléaire dont tout le monde parlait à l'époque. Et on pensait qu'une guerre mondiale était sur le point de se déclencher. Une fois, j'avais fait le trajet avec un ami ayatollah. Et quand on était passé devant, il m'avait dit dans un éclat de rire de me pencher pour que je ne sois pas irradié. Oui, même les ayatollahs ont un sens de l'humour, du moins certains.
Et alors, ça ressemblait à quoi pour que tout le monde regarde comme ça ?
L'image mentale qui m'en reste, c'est celle d'un mur en bord de route, des miradors, des gardiens de la révolution qui font la ronde. Impossible de savoir ce qui s'y passe. Ces lieux, d'ailleurs, je crois, ne figurent même pas sur les cartes. Mais tous les sites d'importance capitale ne sont pas lugubres. Actuellement, en Europe, sinon dans le monde, le lieu le plus important pourrait bien être Puurs.
Alors, c'est en Belgique, pas très loin de chez vous, au nord de Bruxelles. Et alors, Puurs serait un lieu stratégique ?
Ben oui, parce que on en parle indirectement tout le temps dans l'actualité. C'est là qu'est implantée la grande usine Pfizer. En d'autres termes, tous les vaccins Pfizer d'Europe y sont produits ou y seront produits. Par curiosité, dimanche dernier, j'ai décidé d'y aller à vélo, bien sûr. Autant l'avouer d'emblée, je n'ai rien vu de spécial. Un village de Flandre, riche, propre, coquet, et juste en périphérie, une énorme usine pharmaceutique. Comme on se l'imagine.
Cette fois-là, pas de mur ni de mirador au moins.
Et non, Sophie, à ma vive surprise, je n'ai vu strictement aucun policier, aucune protection apparente. Pour le centre du monde, voilà qui peut étonner. Quand j'étais avec mon vélo face à l'entrée fermée le dimanche matin, je me suis dit que j'aurais pu entrer par effraction. En fin de journée, après être passé à vélo par Bruxelles, mon ami magistrat belge m'a dit que je devrais faire attention. Mon téléphone portable a dû être signalé aussi bien à côté de la grande usine qu'un peu plus tard à l'emplacement des manifs interdites contre les mesures corona. En somme, peut-être que si les sites sensibles sont invisibles, rien ne dit que eux ne nous voient pas. Comme le disait Confucius, Zhu shi you qi hao de yi mian, dan bu shi shen shen dou ning kan dao. Toutes les choses ont leur beauté, mais tous ne peuvent pas la voir.
On compte sur vous, en tout cas, pour nous faire voir la beauté de certaines choses. En l'occurrence, pour l'usine à vaccins, on verra surtout son utilité. Merci beaucoup, Joseph.
Merci, Sophie. À tout bientôt.
À dimanche prochain. Et voilà, c'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. Vous pourrez retrouver tous ces reportages, évidemment, sur europe1.fr, comme d'habitude. Et je passe le témoin à Nicolas Carreau qui m'a rejoint. Nicolas, quel est le programme pour
Alors,
vous maintenant ?
Alors, je reçois Philippe Delerme pour son nouveau livre. C'est toujours super d'écouter Philippe Delerme. Et puis, on part chez Maureen Dor pour visiter sa bibliothèque, l'animatrice télé devenue éditrice, figurez-vous.
Et ancienne d'Europe 1. Merci beaucoup, Nicolas. La Voix et Livre, c'est dans quelques minutes. Quant à nous, avec Marc Fréjean qui a réalisé cette émission et Marion Gauthier qui m'a aidé à la préparer, on vous souhaite un bon dimanche et on vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.